On va continuer avec vous, avec le docteur Pascal Sedlis, qui est gériatre au CHU de Toulouse. Il va cet après-midi nous parler d'un trouble qui nous touche. Un sujet donc sur deux âgés souffrirait de problèmes de sommeil. Alors, vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'un bon sommeil, c'est quoi un sommeil normal, et à l'inverse, qu'est-ce qu'une insomnie, et les conséquences également de l'Alzheimer ou des maladies apparentées sur le sommeil.
Merci. Bonjour à toutes et tous. Alors déjà, merci à la Fondation Alzheimer de m'inviter pour discuter un petit peu avec vous du sommeil normal et du sommeil pathologique. Alors, est-ce que ça marche ? Oui. Alors déjà, pourquoi cette question ? Pourquoi cette question ? La plainte de sommeil, elle est fréquente. Si on regarde chez le sujet sain cognitivement, en dehors de la maladie neurologique, les chiffres sont variables, 10, 20, 30, 40% des sujets sains âgés se plaignent de leur sommeil. Et si on regarde des mesures un petit peu plus objectives, là, des données en actimétrie. L'actimétrie, vous savez, c'est votre téléphone portable, l'iPhone qui vous dit si vous bougez, si vous ne bougez pas. À partir de ça, on peut déduire un petit peu une durée de sommeil théorique. Et si on regarde les données de cette actimétrie chez ces gens âgés sains cognitivement, on voit que quasiment 20% de ces sujets-là présenteraient un trouble du sommeil type insomnie. Si on regarde la population des sujets présentant des troubles neurocognitifs majeurs, alors juste petit détail de sémantique, dans la présentation, vous ne verrez pas le terme démence, vous verrez le terme trouble neurocognitif majeur. On ferme la parenthèse. Donc chez ces sujets présentant des troubles neurocognitifs majeurs en lien avec la maladie d'Alzheimer, ben on se rapproche probablement de 40% de sujets qui, au cours de l'évolution de leur maladie, connaîtront à un moment donné un trouble du sommeil type insomnie. Donc vous voyez, ce sont des troubles qui sont fréquents chez le sujet âgé, sain cognitivement, et aussi chez le sujet malade. Cette diapo montre finalement le relationnel qu'il peut y avoir entre certains troubles du sommeil et la maladie neurologique. Donc vous voyez que finalement l'insomnie déjà représenterait un sur-risque de troubles neurocognitifs majeurs de 27% à peu près, avec certaines composantes du sommeil plus particulièrement qui favoriseraient ce sur-risque ultérieur de troubles neurocognitifs majeurs. Donc dans ces composantes, vous voyez, il y a le dysfonctionnement diurne, donc le dysfonctionnement, le retentissement sur la journée, un sommeil fragmenté, non efficace. Ce qu'on appelle un sommeil non efficace, c'est le ratio entre le temps qu'on passe au lit et le temps qu'on dort. C'est de là qu'on déduit l'efficacité de sommeil. Et ce qu'on appelle la latence d'endormissement, c'est le délai d'endormissement, c'est-à-dire le délai qui va s'écouler entre le moment où je me mets au lit et le délai où je m'endors. Et vous voyez, sur la gauche, vous avez des courbes qui, là, comme ça, apparaissent très complexes, mais que je vais vous traduire de manière simple, et vous allez voir que, finalement, elles sont très intéressantes à regarder. Sur la courbe horizontale, vous avez la durée de sommeil. Et finalement, cette courbe, elle montre quoi ? Où est représenté le sur-risque ? Eh bien, chez les gens qui dorment court, et chez les gens qui dorment longtemps. Finalement, où est situé le moindre sur-risque de développer un trouble neurocognitif ultérieur en fonction de sa durée de sommeil, mais si on a une durée de sommeil intermédiaire. Dans cette étude-là, ils nous disent, en fonction qu'on regarde plutôt les troubles neurocognitifs dans leur ensemble ou la maladie d'Alzheimer, globalement, c'est aux alentours des 6 heures. Alors c'est vrai, pour moi, 6 heures, c'est trop peu, je dors plus, je vais peut-être un peu décalé sur la 3, mais dans cette étude-là, voilà. Et finalement, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que ce sur-risque de développer ultérieurement des troubles neurocognitifs majeurs, il est présent chez les longs dormeurs et chez les courts dormeurs. Donc vous voyez, si on regarde finalement l'incidence des troubles neurocognitifs de l'insomnie chez le sujet sain âgé pour l'instant, vous voyez que finalement, ça passe à la fois de manière directe par la présence de troubles neurocognitifs, mais aussi par finalement la somnolence diurne qu'elle entraîne. Donc il y a également un effet indirect de cette insomnie sur le sur-risque de développer ultérieurement des troubles neurocognitifs majeurs. Si on regarde maintenant le sujet présentant des troubles neurocognitifs majeurs, vous voyez que de la même manière, le fait d'avoir des troubles du sommeil type insomnie, ça va influer sur le déclin cognitif, ça va représenter un facteur de risque d'accélérer le déclin cognitif, à la fois directement, mais aussi via la somnolence diurne que ça induit. Et la difficulté, c'est quoi aussi ? C'est que finalement, avoir des troubles neurocognitifs est en soi une augmentation du risque d'avoir des troubles du sommeil type insomnie. Donc finalement, vous voyez, ce lien, il est multiple et il est aussi, on va le voir, bidirectionnel. Et en plus, il passe chez ce sujet-là, bien évidemment par la somnolence, mais aussi par la iatrogénie. Tous ceux d'entre vous qui accompagnent peut-être des sujets présentant des troubles neurocognitifs, malheureusement, ces sujets-là ont beaucoup plus souvent des traitements psychotropes qui, par eux-mêmes, représentent un facteur péjoratif sur la somnolence diurne, l'insomnie notamment. Donc finalement, ce qu'on voit, ce qu'on dit de plus en plus, c'est finalement qu'il y a un espèce de lien bidirectionnel entre la présence de troubles du sommeil, notamment de l'insomnie, et la présence de troubles neurocognitifs, notamment liés à la maladie d'Alzheimer. Et vous voyez, c'est à la fois une question d'augmentation d'un risque, présence de troubles nocturnes égale facteur de risque de troubles neurocognitifs ultérieurs, mais également le fait que la présence de troubles neurocognitifs entraîne, ou en tous les cas se traduit par une plus forte prévalence des troubles du sommeil type insomnie. Et alors il y a beaucoup d'hypothèses pour l'instant pour se demander comment ça se fait tout ça finalement. Il y a de plus en plus ce qu'on voit, c'est finalement le sujet adulte sain cognitivement qui se plaint de son sommeil, a malheureusement plus de ces fameuses plaques amyloïdes dans le cerveau. Vous savez, tout à l'heure, le professeur Dubois parlait de la présence de plaques amyloïdes même chez des sujets cognitivement sains. On s'aperçoit que chez les sujets âgés sains qui se plaignent du sommeil, il y a plus de plaques amyloïdes. Donc une des hypothèses évoquées, et finalement, c'est peut-être une augmentation de cette charge amyloïde chez le sujet âgé sain, avec du coup, enfin, qui se plaindrait de son sommeil, avec du coup peut-être plus de risques ultérieurs de développer une maladie d'Alzheimer. Alors ce sont des hypothèses, il y a probablement d'autres explications, mais même certaines personnes se demandent si peut-être finalement l'action sur le sommeil chez le sujet âgé sain ne pourrait pas être peut-être un facteur entre guillemets préventif ou en tous les cas un facteur pour limiter le développement ultérieur de ces maladies neurologiques, de cette maladie d'Alzheimer. On est là bien évidemment au stade d'hypothèses, mais vous l'avez vu, on a beaucoup d'hypothèses et peu de certitudes. Alors maintenant qu'on a discuté finalement du pourquoi, je vais essayer de vous montrer finalement ce qu'est le sommeil normal du sujet adulte et quelle est l'influence de l'âge sur le sommeil. Qu'est-ce que le sommeil normal? Vous voyez en fait à quoi ça sert de dormir. Eh bien dormir, ça sert à récupérer de la veille qui précède, quand on dit la veille ça veut dire le jour qu'on vient de passer, et ça sert ensuite à préparer le jour qui va suivre, c'est-à-dire se lever en forme. Et finalement, vous voyez cette diapo à gauche, qu'est-ce qui se passe au cours de la journée? Ben, votre dette de sommeil, c'est-à-dire finalement le besoin que votre corps a de sommeil, augmente tout au long de la journée. Et elle est théoriquement maximale le soir, juste avant d'aller dormir. C'est le moment où normalement notre corps a le plus besoin de dormir. Et finalement, la nuit, elle sert à quoi? À récupérer cette dette de sommeil pour que le matin vous réveillez, en théorie, non fatigué, sans aucune dette de sommeil et prêt pour la journée. Et ensuite, vous le savez, il y a d'autres choses qui influent notre sommeil, et même plus ce qu'on appelle le rythme circadien, le rythme jour-nuit. Donc il y a des synchronisateurs internes, externes, peu importe. Un des principaux, on en parlera plus tard, c'est la lumière. Hein, c'est parce qu'on voit la lumière du jour qu'on donne à notre information une information intéressante, ne dors pas. Et c'est parce que la nuit, on se met dans le noir complet, qu'on lui donne une information intéressante, c'est maintenant qu'il va falloir dormir. Donc, tout ça, ça fait partie des raisons qu'on a de dormir la nuit et pas le jour. Ici, vous avez des représentations du sommeil. Vous en avez entendu parler, vous avez déjà vu cette histoire des petits trains, vous savez, des petits trains qui se répètent, ces petits cycles de sommeil. Ça, ce sont des représentations du sommeil, vous voyez. En fait, qu'est-ce qui se passe? On se met au lit et petit à petit, notre cerveau va s'installer dans un sommeil de plus en plus profond, donc un sommeil qu'on appelle lent léger, lent moyen, lent profond, peu importe. Et ensuite, il va se mettre dans ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. C'est l'espèce de petit truc bleu turquoise. C'est ce fameux moment où on est censé rêver. Et tout ça, ces cycles se répètent. Et qu'est-ce que vous voyez chez la personne âgée? Donc là, on est en dehors de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. On est le sommeil de la personne âgée. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Déjà, tout d'abord, vous voyez, la personne âgée met plus de temps à s'endormir. Cette fameuse latence d'endormissement, vous voyez, c'est le premier rond à gauche, en haut à gauche. Cette personne-là, entre le moment où elle éteint la lumière et le moment où elle se met à dormir, c'est un petit peu plus long. Ensuite, vous voyez que les périodes que la personne passe dans ce fameux sommeil lent profond, c'est le sommeil qui est censé nous reposer. C'est celui où vraiment on récupère le plus. Ce sommeil lent profond, vous voyez, chez la personne âgée, il est de plus en plus court. Ce n'est pas forcément qu'il y en a moins au cours du cycle, mais il dure moins longtemps. Et l'autre chose que vous voyez, c'est qu'au cours de chaque cycle, les fameuses périodes d'éveil, vous voyez, c'est le moment où l'espèce de créneau est tout à fait en haut. Mais si on compare au sujet adulte non âgé, ces périodes d'éveil sont plus nombreuses et durent plus longtemps. Et souvent, on a même tendance à dire que finalement, ces périodes d'éveil, vous et moi, normalement, ces périodes d'éveil, elles sont non conscientes. On ne s'aperçoit pas qu'après chaque cycle, on a une toute petite phase d'éveil. Ça dure très peu de temps. Et bien malheureusement, avec l'avancée en âge, ces périodes d'éveil sont de plus en plus longues. Il peut y avoir des réveils conscients. On va se réveiller régulièrement au cours de la nuit. Donc oui, l'avancée en âge, même en dehors de la maladie neurologique, se traduit par des modifications du sommeil et même de l'architecture du sommeil. Et même, vous voyez ici que finalement, avec l'avancée en âge, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien déjà, quand on se met dans le lit, on y passe plus longtemps sans forcément plus dormir. Si on regarde, vous voyez la première des courbes là, la temps total passé au lit augmente. Mais le temps total de sommeil n'augmente pas, voire a tendance à diminuer. Et du coup, cette fameuse efficacité de sommeil, elle se réduit. Et l'autre chose, c'est que la latence d'endormissement, c'est-à-dire le temps que je mets à m'endormir à partir du moment où j'éteins les lumières, augmente. Et ça, c'est terrible parce que en consultation, notamment avec les personnes qui viennent pour des troubles du sommeil, cette latence d'endormissement, c'est quelque chose qui psychologiquement est difficile à vivre. Je crois qu'il est plus difficile à vivre de mettre une heure à s'endormir que de se réveiller deux fois dans la nuit si je me rendors tout de suite. Psychologiquement, l'incidence est énorme. Ok. Ensuite, maintenant qu'on a parlé du sommeil normal et de l'incidence de l'avance en âge sur le sommeil, on va parler des troubles du sommeil, d'un trouble du sommeil en particulier, c'est le trouble de type insomnie. Alors, qu'est-ce que l'insomnie ? Oups, pardon. Une définition ici, qui est la définition un peu internationalement reconnue, c'est finalement d'avoir une insatisfaction de son sommeil. Il est évident qu'avoir une définition très objective, précise, est compliqué. On a tous des histoires différentes. Il y a des gens qui sont habitués à dormir 6 heures, et pour eux, dormir 5h50 n'est pas un trouble. Pour moi, dormir 5h50, ce serait un vrai trouble, je serais en souffrance. Donc finalement, ce n'est pas forcément avoir une durée de sommeil de plus 12 minutes ou moins 15 minutes, c'est être insatisfait sur son sommeil, soit parce qu'on trouve qu'on met trop de temps à s'endormir, qu'on ne dort pas assez longtemps, qu'on se réveille trop souvent, ou qu'on se réveille trop tôt le matin. Donc déjà, bien évidemment, il y a une part subjective dans tout ça. Mais à ça, on doit rajouter quelque chose qui est le retentissement, notamment le retentissement diurne. Une personne peut être insatisfaite de son sommeil, mais pour autant que ce sommeil soit suffisamment réparateur pour que la journée, il n'y ait pas d'incidence. Et donc forcément, on se dit, est-ce vraiment un trouble ? Peut-être pas. On ne parlerait de trouble du sommeil, d'insomnie, que s'il y avait un vrai retentissement sur la journée, parce que je suis somnolent, je mange moins, je tombe, ou j'arrive plus à faire mes activités, je m'endors au volant. Là, on pourrait discuter et parler d'un vrai trouble de type insomnie. Donc il y a une plainte, il y a une sensation d'un sommeil non réparateur, il y a un retentissement sur la journée, et on parle de l'insomnie quand elle dure depuis un certain temps, on dit généralement plus de 3 mois. Sinon, c'est une insomnie aiguë, qui souvent elle est liée au fait qu'il fait trop chaud en ce moment, cet été il fait 40 degrés pendant 3 jours, on a tous mal dormi, c'est pas forcément une insomnie. Donc on va parler de l'insomnie quand celle-ci est dure depuis un certain temps. Maintenant, chez la personne âgée, l'insomnie, elle est plurifactorielle. Bien évidemment, la personne âgée, elle a peut-être d'autres problématiques, des problèmes de santé, un environnement dans la chambre qui n'est pas adapté, des habitudes de vie non adaptées, peut-être qu'elle prend des médicaments qui peuvent altérer son sommeil, peut-être qu'elle a des habitudes de vie qui ne sont pas les bonnes, on regarde le téléphone avant de s'endormir, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que quand on nous parle ou quand on se plaint d'une insomnie, la première des choses à faire, c'est se demander pourquoi. Et généralement, chez la personne âgée, l'insomnie, elle est plurifactorielle. Elle a plein de petites raisons. Et c'est l'empilement de toutes ces petites raisons qui génère le trouble du sommeil avec son inconfort et son retentissement sur la journée. Et vous doutez bien, on en parlera après très rapidement sur la prise en charge, les traitements, que Une personne qui aurait plein de petites problématiques qui généreraient ce trouble du sommeil, si la seule réponse est lui donner un somnifère, ben ça veut dire que la réponse n'est pas adaptée à la question, vous vous en doutez bien. Maintenant, parlons un petit peu des troubles du sommeil, plus spécifiquement dans cette maladie d'Alzheimer. Parce que oui, la maladie d'Alzheimer va se traduire par une modification encore plus importante du sommeil. Je vous l'ai dit, les troubles du sommeil sont présents à peu près chez 40% des sujets qui présenteraient une maladie d'Alzheimer. Finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est un symptôme qui est fréquent, mais le problème, c'est que le sujet atteint d'une maladie d'Alzheimer peut ne pas forcément s'en plaindre, ou peut s'en plaindre de manière un petit peu différente, parce que sa plainte va être modifiée par ses troubles cognitifs, ses troubles du langage, etc. Et donc l'importance, quand on est soi-même aidant professionnel ou familial, c'est essayer d'apporter une évaluation externe. Comment est-ce que le sommeil aujourd'hui de mon proche, il est par rapport à avant? Est-ce que mon proche a toujours eu l'habitude de se lever à 4 heures du matin? Ben peut-être que c'est son habitude, il l'a gardé malgré sa maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'il a changé ses habitudes? Est-ce que la journée, il est moins performant, plus somnolent? Est-ce qu'il y a d'autres problématiques liées à son sommeil? Donc tout ça, c'est le genre de questionnement supplémentaire lié à la maladie d'Alzheimer. Et il est possible de s'aider à certaines échelles. Il existe des échelles qui peuvent nous aider, qui peuvent vous aider en tant que proche à envisager, discuter, mettre en évidence des troubles du sommeil. Alors je vais vous en montrer deux. La première en haut à droite, c'est celle qu'on appelle le SDI, le Sleep Disorder Inventory. Alors, elle n'est pas traduite en français, mais je vais vous la traduire, c'est assez simple. C'est des petits questionnaires qui vous font poser la question, est-ce que mon proche a du mal à s'endormir, au sens, est-ce que le temps qui passe entre le moment où il va au lit et le moment où il s'endort pour de vrai est trop long? Généralement, on dit plus d'une demi-heure, mais c'est variable. Est-ce que mon proche se lève souvent la nuit, mais se lève au point qu'il va interrompre son sommeil et parfois se lever parce qu'il n'a plus sommeil, il ne dort plus? Est-ce que mon proche se lève très tôt le matin? Quand on dit très tôt le matin, ça veut dire avant l'heure où il a l'habitude de se lever. Est-ce que mon proche, la journée, va être moins performant, va somnoler, va tomber, moins se manger, etc. C'est toutes ces petites questions qu'on peut se poser pour nous aider à mettre en évidence. Une autre échelle intéressante, c'est en bas ici, ce qu'on appelle l'agenda de sommeil. C'est quoi? C'est une hétéro-évaluation par le proche qui va regarder à partir de quand le sujet va au lit, s'endort, se réveille, est-ce qu'il a un sommeil fragmenté avec plein d'espaces de sommeil, est-ce qu'il se réveille pendant la journée, etc. En gros, ça nous donne une évaluation extérieure du rythme jour-nuit, parce que du coup, chaque ligne, vous voyez dans mon agenda de sommeil, correspond à 24 heures. Et donc, ça va permettre de noter le sommeil la nuit et le sommeil le jour. Et on fait ça sur plusieurs jours et ça permet de mettre en évidence si le sujet est réglé sur le rythme jour-nuit. Ces éléments-là, ce sont des aides extérieures. Encore une fois, le trouble du sommeil, il n'y a pas de norme. On dort tous différemment. La norme, elle n'existe pas. La norme, elle est personnelle. Et donc finalement, qu'est-ce qui va permettre de parler d'un trouble de type insomnie? C'est la plainte, le retentissement, le changement. Au sens, le changement dans les habitudes, dans l'antériorité du sujet. Et c'est tout ça qui va faire parler d'une vraie insomnie et pas juste d'une habitude de sommeil, d'un changement ou autre. Et finalement, avec la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez des modifications du sommeil liées à l'âge dont je vous ai parlé tout à l'heure? Et bien, il y a une forme d'amplification de ces modifications avec la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que le sujet qui a une maladie d'Alzheimer va malheureusement connaître des réveils intra-sommeil de plus en plus longs, des délais d'endormissement de plus en plus longs. Pour plein de raisons, hein. La maladie en elle-même, les sécrétions neurobiochimiques qui se modifient, les modifications de l'environnement au sens de la stimulation intellectuelle, physique, les traitements, la iatrogénie, c'est tout ça qui fait modifier le sommeil malheureusement. Ce sujet va connaître ces modifications du sommeil avec parfois l'excès le plus important, c'est vraiment la déstructuration totale du sommeil. Certains sujets connaissent des sommeils entrecoupés, des micro-sommeils répétés sur la nuit, voire parfois le jour, avec parfois une véritable inversion du rythme jour-nuit, où le sujet dort un peu la nuit, dort un peu le jour, par intermittence, se lève parfois pendant plusieurs heures, etc. Et donc, si on traduit cette modification de sommeil avec cette fameuse actimétrie que je vous montrais tout à l'heure, à gauche, vous avez un tracé d'une personne, comme vous et moi, qui aurait une activité. La journée, on est mobile, donc on a des barres hautes. La nuit, normalement, on n'est pas trop mobile, donc il n'y a pas d'activité. Et donc, on a cette espèce de creux. Vous voyez, sur plusieurs jours, on a cette alternance. Le sujet qui connaît Trine Madelsheimer avec vraiment une déstructuration complète de son sommeil, mais il va connaître cette espèce d'activités régulières qui sont moins intenses, vous avez vu, sur la journée, mais qui sont présentes la nuit avec des alternances, petits épisodes de sommeil, petits épisodes d'activité. Et malheureusement, cette espèce de déstructuration du sommeil, bien évidemment, vous vous en doutez, elle a un retentissement énorme sur l'entourage, sur le sujet bien évidemment, parce que ben, quand on somnole, on mange moins bien, on est moins performant au niveau cognitif, on peut tomber, mais pour l'entourage, notamment familial. Hein, vous vous doutez bien que l'aidant de cette personne, ben, c'est fatigant aussi pour lui ou pour elle, parce que ben, on doit suivre les déambulations, on doit suivre les troubles du sommeil. Donc oui, la maladie d'Alzheimer, malheureusement, se complique de troubles du sommeil, cette amplification des troubles qu'on voit avec l'âge, et parfois la déstructuration beaucoup plus importante, qui est cette espèce de perte complète du rythme jour-nuit. Et ce que je vous montrais sur la diapo tout à l'heure, c'est que, bien évidemment, il y a les modifications environnementales des synchroniseurs qui sont importants, et même si on pense souvent que les troubles du sommeil apparaissent tard dans la maladie, au sens quand les troubles cognitifs sont évolués, parfois il arrive qu'ils soient présents très très tôt, dans les premiers stades d'évolution de la maladie. Donc les troubles du sommeil ne sont pas spécifiques chez une personne qui aurait des troubles neurocognitifs évolués. Ça n'est pas forcément comme ça que ça se passe. Alors maintenant qu'on a dressé un petit peu le tableau, on va essayer d'avoir 2-3 diapos pour parler des traitements, parce que c'est bien beau de parler des troubles, des difficultés, etc. On va essayer d'avoir des petits messages d'espoir pour se dire oui, on a quand même des choses qui peuvent être utiles et efficaces. Alors, cette diapo vous montre, ne la regardez qu'à moitié, hein, bien évidemment c'est très complexe, c'est une diapo qui nous vient de la HAS, de la Haute Autorité de Santé, qui nous dit un petit peu ben, comment on doit prendre en charge les troubles du sommeil de la personne âgée. Ben, le seul truc intéressant sur cette diapo, c'est ça. Vous voyez, en théorie, qu'est-ce qu'on nous dit ? En première intention, c'est toujours pareil, c'est le non médicamenteux, le non pharmacologique. Qu'est-ce qui marche le mieux dans les troubles du sommeil chez la personne âgée, surtout quand elle présente une maladie d'Alzheimer ? C'est toutes les interventions non médicamenteuses. Alors, je vais essayer de vous les détailler. Et encore une fois, à part quand on est face à une insomnie sévère, les médicaments n'ont pas de place. En tous les cas, pas en première intention. Alors, quelles sont les mesures non médicamenteuses qu'on propose ? Ben, finalement, vous voyez, c'est des mesures de bon sens. Hein ? Tous on est, et toutes, on est censé les appliquer. Je pense que moi, personnellement, j'en ai appliqué peut-être 30% tout juste. Peut-être vous, si vous êtes performant un petit peu plus, malheureusement, c'est des choses qu'on ne fait pas assez, mais c'est les choses primordiales. En gros, ben, la journée, on se stimule, on se mobilise, on fait de l'activité physique, surtout le matin, en première partie de la journée. On essaye de ne pas dormir la journée, les siestes, normalement, les siestes, c'est 20-30 minutes. Et moi, mes patients, les conseils que je leur donne, quand ils ont tendance à faire des siestes à rallonge, je leur dis la sieste, ce n'est pas dans le lit. Dites-vous bien que si à 13h30, vous allez dans le lit, vous fermez les rideaux, les volets, vous mettez au lit, sous la couette, vous donnez une information à votre cerveau qui est « attention, la nuit commence ». Donc votre cerveau, soit vous ne mettez pas de réveil, il se réveille dans 3-4 heures quand il est vraiment reposé, soit vous lui mettez un réveil dans 1h30 et là, vous savez, c'est le moment où vous vous levez, vous êtes complètement exténué. Pourquoi ? Parce que vous vous réveillez en plein milieu d'un sommeil profond. Vous avez mis le réveil en plein sommeil profond, c'est le pire moment pour se réveiller. C'est le moment vraiment où, vous savez, on se lève pendant une demi-heure, on a l'impression qu'on va faire un malaise, quoi. Donc, apprenez à dire à votre cerveau au moment de la sieste, ne dors pas, reste en sommeil léger. Et comment vous lisez cette information ? Mettez-vous au canapé, une lumière un peu tamisée, mais pas nuit noire. Et on se réveille au bout de 20 minutes. En 20 minutes, normalement, à part les narcoleptiques, on n'entre pas en sommeil profond, on reste dans un sommeil un peu léger. Et là, vous sortirez de votre sieste un peu plus reposé physiquement, mais vous n'aurez pas entamé un sommeil profond. Avoir une sieste de 20 minutes, ça permet quoi ? Ben que la nuit, vous souvenez de la dette, l'histoire de la dette, votre dette de sommeil, elle soit au maximum. Et c'est parce que votre dette de sommeil est au maximum à 22h30, 23h quand vous allez au lit, que vous allez vous endormir tout de suite. Si votre dette de sommeil, elle est basse parce que vous avez bien récupéré au cours de la journée, l'endormissement, ça va être compliqué, ça va être long. Donc oui, on se stimule la journée, on fait une activité physique, on s'expose à la lumière, très important. On évite la sieste trop longue. Le soir, on évite tout ce qui va être surstimulation, hein, les écrans d'ordinateur, de téléphone, etc. On le sait tous, hein, mais on le fait tous d'avoir le téléphone sur la table de nuit. On se dit, je vais baisser un peu la luminosité, ça ira. Non, hein, ça reste de la lumière blanche, c'est la pire à envoyer à votre cerveau. Ok, elle est moins flashy, mais elle est toujours là. Donc non, on oublie tout ça, surtout si on a des troubles du sommeil. Et ensuite, alors vous ferez ce que vous voulez de cette phrase, le lit juste pour dormir, ça veut dire quoi? En gros, c'est toujours pareil, c'est le lit, c'est pas le bureau, la salle à manger, la cuisine et la salle de bain. Il faut que votre lit, quand vous y allez, votre cerveau se dise « Ah, c'est le truc, là, j'ai qu'un seul truc à faire, c'est m'endormir. » Si vous avez l'habitude de passer la moitié de votre temps dans le lit, ben le cerveau il est un peu perdu dans les informations que vous lui envoyez, surtout si toute la journée vous étiez à moitié dans le noir. Voilà, donc il y a une question la journée et il y a une question le soir avant la nuit. Maintenant, parfois, il arrive que ces mesures de bon sens ne soient pas suffisantes et que la personne présente une insomnie très importante avec un fort retentissement et que là, peut-être, les médicaments semblent nécessaires. Alors le but n'est pas de vous faire un listing, hein, parce que sinon on y sera encore à demain et ce serait beaucoup trop rébarbatif. Je vais juste vous montrer deux molécules dont je pense que 90% des gens dans cette salle ont déjà entendu parler. La première, c'est les fameux somnifères, les fameux hypnotiques, ce qu'on appelle les apparentés benzodiazépines, les complexes Z. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, l'imovan, le stinox, la zopiclone, tous ces trucs-là. Donc ça, c'est des somnifères, oui. C'est-à-dire, c'est des médicaments qui ont un effet sédatif. C'est pour ça qu'on les prend. Leur but, c'est d'essayer de favoriser l'endormissement. Donc normalement, ils sont sédatifs sur l'initiation du sommeil, mais ils ne sont pas censés être là très longtemps. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si votre problème de sommeil, c'est de se réveiller à 6 heures du mat, ça ne sert à rien de prendre un somnifère à 21 heures, parce qu'à 6 heures, il est déjà parti depuis belle lurette. Donc ces médicaments favorisant l'endormissement, il y a quelques études qui disent que ça marche, mais il faut faire très attention, parce que ce sont des médicaments pleins de risques, pleins d'effets secondaires. Le premier, c'est l'accoutumance. Hein ? Le genre de médicaments, on commence à les prendre un jour, deux jours, trois jours, une semaine, un mois, et après on ne peut plus les arrêter. Cette accoutumance, ça associe aussi la perte d'efficacité. C'est-à-dire qu'en gros, non seulement le sujet ne peut pas dormir s'il ne le prend pas, mais en plus, maintenant qu'il le prend depuis 5 ans et demi, il a l'impression que ça ne lui fait plus affaire. Mais il ne faut surtout pas qu'il arrête, parce que c'est pire encore. Donc oui, il y a cet effet drogue, cet effet d'accoutumance et de perte d'efficacité. On dit normalement dans les recommandations, pas plus de 15 jours. Et toutes les études qui ont été faites avec ces médicaments, c'est 15 jours maximum. J'espère autour de vous que vous ne voyez pas des gens qui ont ce genre de médicaments depuis plus de 15 jours. Sinon, ça veut dire qu'il faut faire autrement. Mais ça peut être une aide, au moins pour passer un cap. La deuxième médicament dont je vais vous parler, c'est la mélatonine. Alors la mélatonine, les choses sont assez contradictoires et assez discutées encore. Il y a certaines études, des grosses études, qui nous disent que ça marche. Ça marche sur certains éléments, notamment, ça permettrait d'améliorer la qualité du sommeil. Ça permettrait de diminuer les fameux réveils intra-sommeil. Ça permettrait d'améliorer ce rythme jour-nuit. Vous savez, ce rythme où normalement, je suis censé bien dormir la nuit et pas du tout dormir le jour. Ça n'a probablement pas d'effet pour quelqu'un qui aurait des difficultés à s'endormir. Probablement pas. Mais ça peut être une aide. Surtout, l'avantage, c'est quoi ? C'est que si on regarde toutes les études, ça n'a jamais montré un quelconque effet secondaire. Les problèmes, c'est quoi ? C'est que l'effet est quand même modeste. S'il existe, il est modeste. L'autre problème, c'est que c'est non remboursé. Et ce qu'il faut se dire, c'est que toutes les études qui ont été faites avec cette mélatonine, ça n'est pas la mélatonine que vous trouvez à la parapharmacie à Lafayette. Ce sont des dosages bien plus importants. Dans les études, c'est des dosages à 8, 10, 12 mg, alors qu'à Lafayette, vous trouverez à 1,9 mg. Vous avez déjà vu, c'est 1,9 parce qu'ils ne peuvent pas vendre au-delà de 2. Au-delà de 2, c'est de la pharmacie. Voilà. Mais ça peut être intéressant. Je ne vais pas passer sur les autres traitements parce qu'on y passerait toute la nuit. Il existe quand même d'autres choses qui peuvent être des aides, mais au cas par cas et surtout vraiment quand les troubles du sommeil sont très importants et ont beaucoup de retentissement. Pour conclure, les autres choses, la phytothérapie, l'aromathérapie, alors la valériane, les choses comme ça, je suis déçu de vous dire que malheureusement, ça n'a jamais rien prouvé. Maintenant, ce qu'il faut se dire, ça n'est pas parce que ça n'a rien prouvé que ça ne marche pas. On est bien d'accord. Pas prouvé ne veut pas dire que ça ne marche pas. Certaines personnes chez qui ça marche, je pense qu'il faut se dire que ça peut être intéressant, ça peut être une vraie aide, notamment pour passer par la phase psychologique. Vous l'avez tous vu, qui dit trouble du sommeil dit retentissement psychologique important. J'ai peur d'aller au lit, j'ai peur de ne pas dormir, etc. Donc ça peut être un intérêt. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est se dire, pour l'instant, ça n'a jamais prouvé que ça marchait. Et c'est pour ça que votre médecin traitant ne vous fera jamais d'ordonnance en vous prescrivant de la valériane. Il peut vous conseiller de le prendre, ça peut être intéressant, mais vous ne le trouverez pas en pharmacie. Pour conclure, oui, le sommeil se modifie avec l'âge. Il se modifie avec l'âge et il se modifie encore plus avec les maladies neurologiques, notamment la maladie d'Alzheimer. On parle de troubles du sommeil, d'insomnie, bien évidemment quand il y a un changement dans les habitudes, un vrai trouble et surtout un inconfort pour le sujet et un retentissement sur la journée, forcément. La priorité des priorités quand on va essayer d'améliorer un trouble, une insomnie, c'est le côté non médicamenteux. Et toutes les études le disent, la prise en charge non médicamenteuse, c'est celle qui marche le mieux. Le médicament, il peut être utile. Il peut être utile en complément, surtout si cette insomnie est sévère, au sens que l'inconfort pour le sujet, le retentissement, est très important. Mais elle ne sera qu'associée au reste. Et pourquoi ça ? Bien, encore une fois, parce que les médicaments, ils ont une efficacité modeste et ils ont quand même beaucoup de risques, bien évidemment. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, docteur. Avez-vous quelques questions ? Très peu, parce qu'on a pris un peu de retard et du coup, voilà, on va aussi, vous allez pouvoir aussi lui poser des questions dans quelques minutes. Après, il y aura la pause, mais n'hésitez pas à lever la main et on va faire passer le micro. Tout a été clair sur les troubles du sommeil. En tout cas, en conclusion, c'est que, effectivement, merci pour ce rappel que les troubles du sommeil sont liés effectivement à l'âge et s'accentuent avec les maladies apparentées ou les maladies d'Alzheimer. Merci infiniment.